et les J8. Toi qui es si habile à donner mille formes à l'édifice d'une chevelure, toi qui mérites de me coiffer que des déesses s'y passissent, toi que j'ai connu peu novice dans nos étendres ébats, toi si ingénieuse à servir ta maîtresse, mais bien plus ingénieuse encore à me servir, quel indice donc a révélé notre amour? Comment Corinne a-t-elle soupçonné le secret de nos plaisirs? Est-ce que j'ai rougi? M'est-il échappé à un seul mot qui pût trahir nos furtives jouissances? N'ai-je pas dit au contraire que pour vouloir les goûter avec une ex-servante, il fallait avoir perdu son bon sens? Le héros de Thessalie a brûlé d'amour pour la belle Briseis, qui n'était qu'une servante. Elle est esclave, celle qui sut plaire au roi de Mycène. Et je ne suis pas plus grand que le petit-fils de Tantale, pas plus grand qu'Achille. Ce qui put convenir à des rois serait-il pour moi un sujet de honte? Cependant, lorsqu'elle fixa sur toi ses regards irrités, j'ai vu tes joues se couvrir de rougeur. Qu'avec plus d'assurance, si tu t'en souviens, je pris à témoin de sa fidélité la pesante et puissante divinité de Vénus. Je t'en conjure, ô déesse, ordonne que ce parjure d'un cœur resté innocent soit emporté sur la mer carpathienne par la tiède haleine du Honnotus. En faveur de ce service, accorde-moi, Brunsipassis, accorde-moi la douce faveur de t'embrasser aujourd'hui. Mais pourquoi refuser, ingrate, pourquoi feindre de nouvelles craintes? C'est assez d'avoir bien mérité d'un de tes maîtres. Si tu me refuses insensé, c'est moi qui dévoilerai tout le passé. Oui, je me ferai moi-même le révélateur de ma faute. Oui, Sipasis, je dirai à ta maîtresse en quel lieu et combien de fois nous nous sommes rencontrés et de combien de manières nous avons varié nos plaisirs. Élégie 9. Cupidon, toi dont la colère contre moi n'est jamais satisfaite, enfant qui ne jouir mon cœur d'aucun repos, pourquoi frapper sans cesse un soldat qui n'a jamais abandonné la bannière? Pourquoi tes flèches viennent-elles m'atteindre jusque dans mon propre camp? Pourquoi ta torche brûle-t-elle tes amis? Pourquoi ton arc les blesse-t-il? Il n'y aurait plus de gloire à triompher d'un rebelle. Quoi, le héros de Phémonie, après avoir percé son ennemi de sa lance, ne guérit-il pas avec la lance la blessure qu'elle avait faite? Le chasseur poursuit l'animal qui fuit devant lui. Dès qu'il l'a pris, il l'abandonne. Et c'est contre une nouvelle proie que se dirigent ses coups. Nous qui sommes tes sujets, nous éprouverons la force de tes armes. Et ton bras engourdi ne sait point frapper l'ennemi qui résiste. Et que te sert d'émousser les traits aigus sur des eaux décharnées? Car c'est là tout ce que tu m'as laissé à l'amour. Il est tant de jeunes garçons sans amour tant de jeunes filles, mais ta gloire a se triomphé. Rome, si elle eût déployé ses forces dans les vastes étendues de l'univers, ne serait encore aujourd'hui qu'un assemblage de chaumières couvertes de mousse. Le soldat, fatigué de combat, les quitte pour le champ qu'il vient de recevoir. Délivré de sa prison, le coursier va bondir dans les pâturages. De ports immenses abritent des vaisseaux arrachés aux tempêtes. Le gladiateur, en déposant un glaive, reçoit la baguette qui met ses jours en sûreté. Pour moi, aussi soldat émérite de drapeau de sa maîtresse, le temps du repos était bien arrivé. Et cependant, si un dieu me disait « Vis désormais affranchi de l'amour, Je m'en défendrai, tant l'amour d'une jeune fille est un mal plein de douceur. Après que j'en ai épuisé les plaisirs et senti les feux s'éteindre dans mon cœur, je n'osais, quel vertige, je sais, quel vertige s'empare de mon âme égarée. Comme ce cavalier, retenant en vain les rênes fumantes d'écume, se voit entraîné vers l'abîme par un coursier fidèle, comme l'esquif près de toucher la terre et d'entrer dans un port est tout à coup rejeté au large par un coup de vent, ainsi m'entraîne à son gré le souffle incertain de Cupidon, d'amour aux joues de rose, répand contre moi ses traits accoutumés. Frappe, enfant, je m'offre à tes coups nus et désarmés. Déploie tes forces et fais voir ici ton adresse. C'est là que d'elles-mêmes viennent s'enfoncer les flèches, comme si elles en avaient reçu l'ordre. À peine le carquois les est-il aussi connu que mon cœur. Malheur à qui peut poser pendant une nuit entière et attacher un grand prix au sommeil. Insensé! Quel sommeil, sinon l'usage de la froide mort? Le destin le réserve un repos assez long. Je veux, moi, que tantôt ma maîtresse me trompe par de mensongères paroles. L'esprit ne saurait m'échapper, et c'est déjà du bonheur. Je veux que sa bouche tantôt me flatte et tantôt me querelle, qu'elle se livre souvent à moi, que souvent elle me repousse. Si Mars est inconstant, c'est grâce à toi, Cupidon. Oui, c'est à ton exemple que le dieu des combats porte ça et là les armes. Tu es volage et beaucoup plus léger que tes ailes. Toujours incertain, tu donnes et refuses le plaisir au gré de ton caprice. Si pourtant vous daignez, la gracieuse mère et toi, exaucez mes prières, règnant maître sur mon cœur qui ne sera jamais désert, que sous ton empire viennent se ranger toutes les belles, foule hélas, trop volage. Tu seras à ce prix adoré des deux sexes à la fois. Élégie 10. C'est toi, oh, je m'en souviens, oui, oui, c'est toi, Gricinus, qui niais qu'on pût aimer deux femmes belles à la fois. Grâce à toi, j'ai succombé. Grâce à toi, j'ai été pris sans défense. À ma honte, j'aime deux femmes. Belles toutes les deux chambrières. Il serait difficile de décider laquelle a le plus de talent. La première l'emporte en beauté sur la seconde sur la première. C'est tantôt celle-ci et tantôt celle-là qui me plaît davantage. Comme l'esquif battu par des vents opposés, mon cœur flotte partagé entre ces deux amours. Pourquoi, déesse du mont Eryx, multiplier ainsi mes éternels tourments? N'était-ce pas assez les soins que me donnait une seule maîtresse? Pourquoi ajouter des feuilles aux arbres, des étoiles au ciel et des eaux nouvelles à l'immensité de l'océan? Mais mieux vaut pourtant ce doux amour que de languir sans aimer. À mes ennemis, une vie sans jouissance. À mes ennemis, le sommeil dur sur une couche solitaire et le repos dans un lit qui n'est point partagé. Et pour moi, je veux que le cruel amour m'arrache aux longueurs du sommeil et que mon corps n'affaisse pas le seul poids de duvet de ma couche, qu'une maîtresse puisse sans obstacle épuiser mon amour, si une seule peut le faire, et si c'est assez d'une, qu'elle soit deux. Un corps sec, il est vrai, mais non débile, suffira à cette tâche. C'est l'embonpoint et non la vigueur qui lui manque. D'ailleurs, la volupté armera mes flancs de farces nouvelles. Jamais dans cette lutte aucune belle ne fut trompée par moi. Souvent, après une nuit de plaisir, elle m'a trouvé le matin encore dispos et vigoureux, athlète. heureux qui succombe dans les duels de Vénus, fasse les dieux que j'y trouve le trépas. Que le soldat présente sa poitrine aux 13 ennemis, qu'il achète de son sang un nom immortel, que l'avare aille au loin chercher les richesses, et qu'englouti par la mer, connaissait son navire, il en boive les eaux de sa bouche parjure. Pour moi, je veux vieillir sous la bannière de Vénus, je veux mourir au milieu de l'action, et qu'on puisse dire en pleurant sur mon tombeau, « Il est mort comme il a vécu. » Élégie 11. Dépouille du mont Pélion, c'est l'argot qui le premier s'ouvrit une fatale route sur les flots étonnés de la mer. C'est ce navire audacieux qui, voguant à travers les écueils semés sur son passage, revint chargé du bélier à la jauve toison. Plus au ciel que les flots courroucés eussent englouti l'argot, afin que nul mortel n'ose tourmenter de sa rame l'étendue des mers. Voici que, délaissant sa couche accoutumée et ses pénates domestiques, Corinne va se confier à l'élément trompeur. Hélas, pourquoi me forcer à craindre pour toi, et Zéphyr et le Russe, et le froid boré, et le tiède Notus? Tu n'auras sur la route ni ville ni forêt admirée. La vue d'une mer bleuâtre et perfide, voilà le spectacle qui t'est réservé. Ce n'est point au milieu des océans qu'on trouve les meilleurs coquillages, les légers et les cailloux aux mille nuances. On ne le voit que dans les eaux transparentes du rivage. C'est le rivage seul que doivent fouler les pieds délicats de la beauté. Là seulement elle est en sûreté. Plus loin commence une route inconnue. Que d'autres vous racontent la lutte des vents? Quelles mers sont infestées par Charybde et par Scylla? Quelles roches dominent les monts? Céronicus aux sanglants souvenirs? Dans quels lieux sont cachés les cires ou merlées? Que d'autres vous en instruisent? Quel que soit leur récit, croyez-les! Croire au récit d'une tempête, ce n'est pas l'essayer. On est bien longtemps sans revoir la terre, quand, une fois détaché du rivage, le vaisseau vogue à pleine voile sur l'immensité de la mer. Le navigateur inquiet redoute les vents conjurés, et voit la mort aussi près que les flots. Et que deviendras-tu si Triton soulève les ondes agitées? Comme tout ton visage alors sera décoloré. Invoquant les fils généraux de la seconde Léda, tu t'écriras « Heureuse celle que retient sa terre natale !» Il n'y a plus de sûreté dans une couche moelleuse. Mieux vaut lire quelques livres nouveaux ou faire résonner sous ses doigts une lyre de traces. Mais si le souffle des tempêtes doit emporter mes plaintes stériles, que du moins Galatée veille sur ton vaisseau. La mort d'une telle beauté serait un crime pour vous, déesse de la mer, et pour toi, père des Néréides. Pars, ô mon ami, en pensant à moi. Pars pour revenir au premier vent favorable, et que son haleine plus puissante enfle alors tes voiles. Qu'alors le grand Néret incline la mer sur ce rivage, que les vents soufflent du côté de Rome, et que par ici le flux précipite les eaux. Prie toi-même les zéphyrs d'enfler les voiles de tout leur souffle, et que ta main les présente à leur puissante haleine. Le premier, je découvrirai du rivage ton navire chéri, et je dirai « Voici le navire qui ramène mes dieux ». Et bientôt, te recevant dans mes bras, je te ravirai mille baisers précipités. Pour fêter ton retour, tombera la victime dévouée. J'étendrai en forme de lit le sable mouvant du rivage. Le premier tertre nous servira de table. Là, dans le bruit des coupes, Tu commenceras tes longs récits. Tu me peindras ton navire à demi englouti dans les flots. Tu me diras qu'en revenant vers moi, tu ne craignais ni la perfide fraîcheur de la nuit, ni les vents déchaînés. La fiction même deviendra pour moi la vérité. Je croirai tout, et pourquoi ne croirais-je pas, avec complaisance, ce qui est l'objet de tous mes vœux? Puisse l'étoile du matin, brillant d'un vif éclat dans l'immensité du ciel, m'amener au plus tôt, dans sa course rapide, ce jour fortuné.